Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'il y a de la maladie qui court ces temps-ci. En tout cas, pour ma part, ça va bien jusqu'à présent. Ce matin, là, je suis nerveux, là. Je suis stressé. J'ai peur de mettre un petit peu les pieds dans les plats. Je vais vous expliquer pourquoi. On revient avant les fêtes. Je sais pas si vous vous souvenez, là, j'avais commencé une double série simultanée avec Néhémie, homme de courage, et Esther, femme d'influence. Et ce matin, on va continuer notre série avec Esther, femme d'influence. Et c'est pour ça que je suis un petit peu stressé, hein. J'ai peur de me mettre les pieds dans les plats. J'espère que ça arrivera pas. Vous savez, mesdames, on a besoin de vous. Hein? En tant qu'homme, là, si on vous avait pas, on ferait dur. On a besoin de vous. Et c'est une vérité importante, hein. Même Dieu, là, quand il a créé la terre, quand il a créé le ciel, il a créé les animaux, le plan de Dieu n'était pas complet tant et aussi longtemps que la dame n'avait pas été créée. Hein? Dieu avait amené Ève devant Adam et puis lui a dit, « Ben, j'ai fait une aide semblable. » On a besoin de vous. Dans le plan de Dieu, Dieu a créé la femme pour qu'elle soit aussi une aide à l'homme. Et l'inverse, j'imagine qu'il doit être tout aussi vrai. Le rôle de la femme, comme pour le rôle de l'homme, on va parler plus particulièrement du rôle de la femme pour ce matin. C'est pas nécessairement toujours évident de savoir où se placer. On peut être influencé. Tantôt, je parlais de femme d'influence. En tant que femme ou homme, on est placé entre deux sources d'influence, si je peux dire. Les Écritures qui nous encouragent de dire, voici à quoi ressemble le rôle de la dame. Voici, mesdames, qu'est-ce que vous devez faire. Et de l'autre côté, il y a le monde aussi qui dit, voici les femmes, à quoi est-ce que vous devez aspirer, à quoi vous devez ressembler. Et on peut être influencé sur un bord et sur l'autre. Évidemment, notre prière, c'est qu'on soit influencé de par ce que les Écritures nous donnent. Parce que dans le plan que Dieu a créé, dans ce que Dieu nous a donné, il a fait les choses parfaitement. Et avec ce que Dieu a créé, en nous laissant le manuel d'instruction, ben on comprend que si j'applique ce que Dieu veut pour ma vie, ben ça va réussir. Et c'est le but de ces séries-là avec l'homme de courage, la femme d'influence, à savoir qu'est-ce que Dieu s'attend de nos vies. Nos vies, des fois, nos journées passent, et puis les trois quarts de nos journées peuvent avoir rien de particulier, ils peuvent avoir rien de spécial, bien qu'on soit sauvé, qu'on appartienne à Dieu, que nos vies soient dirigées vers lui. Il y a des matins où ce que notre réveil matin, c'est pas nécessairement un cœur angélique qui nous réveille d'une parfaite harmonie, qui chante, et ça arrive pas souvent. Je sais pas si ça vous est arrivé, ou bien que Dieu vous parle de vive voix puis qui dit David, j'ai une mission pour toi. Hein? Ça m'arrive pas ça non plus. J'ai les Écritures qui me parlent, mais j'ai pas la voix audible de Dieu. Des fois, on a des journées qui sont devant nous, puis si on a un journal personnel, on pourrait écrire « Rien à signaler ». Rien de spécial aujourd'hui, la routine fait son petit train quotidien, et rien de spécial. Mais vous savez, dans ces journées-là, on se doit que d'être prêt. Mesdames, vous devez que d'être prête à devenir une femme d'influence. Et c'est pas en attendant le jour spectaculaire que là, tout à coup, on devient la personne que Dieu veut que je devienne. On se doit que d'être prêt, que d'être prête. Et imaginez, par exemple, cette première journée où les hommes se mariaient, mangeaient, buvaient, et tout à coup, la pluie a commencé à tomber. Peut-être que ce matin-là, il y avait des gens qui avaient écrit « rien à signaler », mais ce matin-là, c'était le début du déluge qui allait commencer. Pensons, par exemple, à une autre journée banale où ce que un homme qui gardait les moutons de son beau-père se lève le matin un peu raqué parce qu'il est dans le désert, un peu âgé, ça va garder les moutons de son père, puis il voit de la boucane un peu au loin, puis de voir ce buisson qui est en train de brûler, qui se consume pas, et tout à coup, il y a une rencontre personnelle avec Dieu, où ce que Dieu l'attendait. Peut-être que ce matin-là, il se disait rien à signaler, puis Dieu allait le préparer, Dieu allait le rencontrer. Ou un autre matin où ce qu'un jeune homme, un jeune adolescent, il s'est levé qui lui aussi allait garder les moutons. Ses grands frères étaient partis à l'armée et puis lui s'en allait garder les moutons. Puis là, finalement, un vieil homme s'en vient le voir puis lui verse de l'huile sur la tête en lui disant qu'il allait devenir le prochain roi d'Israël. Ces journées-là qui peuvent paraître banales, ces hommes-là, ces femmes-là étaient prêtes à devenir des gens utiles dans la main de Dieu. J'ai apporté un de mes passe-temps que j'aime bien faire, jouer aux échecs. Je ne sais pas si vous jouez aux échecs un petit peu, là. Mais regarder quelqu'un qui joue aux échecs, c'est plate. C'est vraiment plate. C'est pire que le golf à la TV. C'est regarder quelqu'un qui joue, deux personnes qui jouent aux échecs, il n'y a pas d'intérêt parce que on n'est pas dans la tête des gens. Hein? Si la personne place sa pièce là, puis fait ça, c'est quoi son plan? C'est quoi sa stratégie? Puis nous, on pourrait regarder puis dire, hey, il me semble que je ferais ça de même. Il me semble que je placerais la pièce là, puis il faudrait faire ça. Mais en bout de ligne, à un moment donné, on se tente parce qu'on a l'impression que ça va mener où? C'est où est-ce que ça va aller? Puis on perd l'intérêt. Puis parfois, nos vies devant Dieu, on pourrait ressembler à ces spectateurs qui regardent Dieu jouer aux échecs. Et avec nos vies, les circonstances de nos vies, et puis qu'on pourrait se dire, ben c'est quoi le plan de Dieu là? C'est quoi sa stratégie? Pourquoi est-ce qu'il place ces pièces-là comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Je comprends rien. C'est quand est-ce qu'il va être échec et mat, là? Quand est-ce que ça va être résolu, cette question-là? Et des fois, on s'impatiente. Et puis, on se tire dans le pied en voulant aller plus vite que Dieu. Dieu veut que vous soyez des femmes d'influence. Dieu veut que vous soyez des femmes qui allez jouer le rôle que Dieu veut vous donner. Mais le temps passe et il faut faire confiance à Dieu que qu'est-ce qui se passe demain, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Esther était une femme qui a été prête pour être utilisée dans la main de Dieu, pour devenir une femme d'influence. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre d'Esther, mais c'est un personnage, une histoire vraiment intéressante. Et je suis sûr qu'on pourrait faire un film avec ça. Il y a des dénouements incroyables avec l'histoire d'Esther. Mais Esther pouvait se poser la question, « Dieu, tu fais quoi avec ma vie? » Tu sais, les gens, on va regarder, je vous invite déjà à tourner dans Esther 2 pendant qu'on continue. On avait vu dans Esther 1, justement, le roi Xerxès, qui était un roi puissant. L'homme le plus puissant de la terre à ce temps-là était Xerxès. Et il y avait une femme Vasti, et puis pour résumer ça rapidement, Xerxès a été très insatisfait de sa femme qui ne lui a pas obéi de venir parader devant lui puis devant les convives. Et puis, il l'a divorcé, puis il l'a renvoyé. Puis là, les gens qui étaient ses conseillers ont dit, « Là, envoie dans toutes les provinces de la terre de ton royaume que là, maintenant, les femmes doivent obéir à leur mari puis que là, qu'ils se placent pour que ça marche comme il faut. » Tantôt, je disais que les hommes ont fait dur sans les femmes. Hein? Xerxès, il a fait vraiment dur dans cette situation-là. Puis, il n'a pas réalisé qu'est-ce qu'il était en train de faire. Et puis, on va voir dans le chapitre 2 qu'il est trop tard. Là. Il a agi, puis il aurait dû réfléchir avant d'agir. Esther était une femme qui est en train qui était une étoile, l'étoile d'Orient, qui veut dire Esther, que Dieu va utiliser pour influencer toute une histoire. Et avant qu'on aille un petit peu plus loin, Daniel... On peut même reculer à Jérémie. Et là, je ne veux pas trop faire d'histoire parce que le temps passe vite. Je vais être capable de dire ce que j'ai à dire. Jérémie, au temps que Juda allait être bientôt déporté, où ce que Jérusalem est en train de se faire attaquer par Nebuchadnezzar, qui était roi de Babylone, ben a prophétisé 70 ans de déportation. Où ce que le peuple de Juda, le royaume du sud, allait être déporté en Babylone. Et là, au temps d'Esther, on est dans cette période-là de déportation où ce que il reste moins de 70 ans, mais les Juifs, ils sont à Suse, dans la capitale de Perse, à ce moment-là que le roi a changé, le royaume a changé. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle allait faire? Les 70 ans, quand ils vont venir à leur terme, comment ça va se dérouler? Tantôt, je vous présentais mon échiquier. Dieu est en train de placer des choses tranquillement, que en observateur, on se dit comment ça va se dénouer. Comment est-ce que le retour va se faire? Le retour va se faire sous Néhémie, le retour en des temps fâcheux que Daniel a prophétisé, sans parler trop des prophéties. Mais il devait y avoir un retour, justement, à Jérusalem. Mais Dieu, comment est-ce qu'il allait placer son échiquier? Esther allait en faire partie. Mais il faut être disponible pour être utilisé dans la main de Dieu. OK, j'aimerais que... On lise premièrement les 4 premiers versets du chapitre 2, juste avant, je veux qu'on fasse un mot de prière, que Dieu nous dirige dans sa parole. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Tu es un grand Dieu, tu es tout puissant. C'est toi qui diriges nos vies. C'est toi qui diriges toutes circonstances. Et Dieu, c'est rassurant pour nous parce qu'on sait que c'est toi qui es toujours vainqueur. C'est toi qui diriges nos vies parfaitement. C'est toi qui nous as donné ces rôles, Seigneur, aux femmes et aux hommes. Seigneur, on veut ouvrir ce matin nos oreilles puis être sensible à toi. Qu'est-ce que tu veux nous dire? en tant que femme, Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire en ce qui concerne leur rôle pour qu'ils puissent commencer à pratiquer, Seigneur, que chacune dans leur vie, que tu touches le doigt, Seigneur, là où ce qu'il y a besoin de comprendre, Seigneur, ce que ta parole dit. Pour nous, en tant qu'hommes aussi, que tu touches nos cœurs, Dieu, qu'on comprenne ce que tu t'attends de nos vies, de la vie de nos dames aussi, pour qu'on puisse vivre selon le plan que tu as créé. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen. Les quatre premiers versets, Esther 2, après ces choses, et on parlait du chapitre 1 tantôt, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qu'il avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne la reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Première des choses, le roi, après ces choses, il s'est passé 4 ans. Dans l'histoire du monde, on est capable de voir qu'il s'est passé 4 ans entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Xerxès, c'était le roi le plus puissant de la terre. Il est parti, selon les historiens, avec un nombre incroyable de son armée, 5 millions d'hommes, pour aller attaquer des Grecs. Et il a perdu. Il a perdu cette bataille-là au Salamine, ce que l'histoire nous dit, au Thermopyles. Et il est revenu chez lui dans une circonstance de défaite triste. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Dieu est au contrôle de toutes choses. On ne connaît pas nécessairement plus l'histoire que ça, qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur, dans la tête de Xerxès, d'Assuérus, mais Dieu est au contrôle de toute cette situation-là. Xerxès est assis sur son trône, sa colère est passée. Il recommence à penser à Vasti, sa femme, à ce qu'elle avait fait, à la décision qui avait été prise. Et puis, il est attristé, il est triste. Il y a des gens près de lui qui disent, « Ben là, c'est le temps qu'on passe à autre chose. Faisons un concours de Miss Perse, okay, dans toutes les provinces de ton royaume, qu'on fasse venir les plus belles femmes vierges ici, comme ça, puis tu choisiras celle qui te plaît. » Ben alors, c'est correct, Xerxès, il va selon l'avis de ses conseillers, puis on part le concours. Alors, selon l'histoire qu'on connaît aussi, il y aurait eu, semblerait, près de 400 femmes qui auraient été rassemblées près du royaume comme ça. On va voir la suite tantôt de ce qui est dit sur ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles devaient faire. Mais Xerxès allait se choisir une nouvelle reine. Encore là, Dieu est en train de placer toute chose. Je veux juste vous citer un proverbe, 20-25. « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Assuérus avait agi dans sa colère. Il avait mal agi. Et puis, tout à coup, il se trouve assis sur son trône à réfléchir sur son action qu'il avait faite. Ce que les Écritures nous disent, c'est de réfléchir avant de faire ces décisions-là. Peut-être qu'Assuérus aurait mieux agi. Mais bref, on en est maintenant à une autre place dans l'histoire. On va continuer avec les versets 5 à 8. C'est un livre historique, il faut lire du texte un peu. Mais la première des choses, ce matin, ce que je veux que l'on voit, pourquoi est-ce que Esther est devenue une femme d'influence? Si en tant que femme, vous voulez prendre exemple sur sa vie, Esther est devenue une femme d'influence plus tard dans le temps, pour la première des raisons, à cause qu'elle est demeurée fidèle malgré les épreuves. On va voir le contexte d'Esther et elle est demeurée fidèle malgré les épreuves. Versets 5 à 8. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale sous la surveillance des guets, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des guets, gardiens des femmes. Le contexte d'Esther n'est pas facile. Esther est devenue une femme d'influence, mais tantôt je disais, qu'est-ce qui se passe dans nos vies, dans le quotidien quand on se lève? Qu'est-ce que Dieu veut faire de nos vies? Je suis convaincu qu'Esther a pu se poser la question. Dieu, je suis orpheline. J'ai plus de mère. J'ai plus de père. Probablement qu'elle avait perdu ses parents dans cette guerre-là où ce que Nebuchadnezzar avec Babylone est venu pour attaquer. Ben, peut-être que ses parents sont morts justement dans cette période-là. Elle se retrouve maintenant déportée dans un pays qui n'est pas le sien, avec des gens qui ne vivent pas selon les valeurs religieuses d'Esther. Elle est adoptée par Mardoché, qui est un bon monsieur, qui est un bon homme qu'on croit qu'il a élevé Esther selon les valeurs que Dieu voulait qu'elle ait. Mais elle est orpheline. Elle est déportée. Elle n'a plus ses parents. Et malgré ça, on voit qu'Esther, sans qu'on voit nécessairement beaucoup de sa vie, on croit qu'Esther est demeurée fidèle à Dieu. Elle est demeurée probablement fidèle aux enseignements que son cousin, en fait, Mardoché, était le neveu de son père. En passant, Mardoché, et là, je trouve une petite parenthèse que je referme vite, Mardoché était descendant du père de Saül. Alors, homme de Benjamin, le père de Saül était Kis, et Mardoché est descendant de cette même lignée. Alors, c'est pas nécessairement mauvais, mais Mardoché est un bon homme. Je vous ai apporté ce matin deux choses. Une bouteille de vin. Oups! OK, je laisse le bouchon dessus, OK? Pas d'inquiétude. J'ai pas apporté, on va laisser le bouchon dessus. Je vais apporter une bouteille de vin. Pourquoi? Hein, vous savez c'est quoi, comment c'est fait du vin? Et je suis pas spécialiste du tout dans la fabrication du vin, mais de ce que je comprends, on prend du jus de raisin et avec du temps, avec de la fermentation, le vin, avec les propriétés qu'on va lui donner, va devenir un vin de qualité. Il va, dépendamment de comment est-ce qu'on l'a fabriqué, il va devenir quelque chose qui va prendre de la valeur, qui va devenir dispendieux, que les gens vont aimer déguster, que les gens vont aimer prendre avec un bon repas, et le vin va devenir quelque chose... Oups! Je perds des pièces. Le vin va devenir quelque chose de précieux, dans un sens, de valeur, disons ça comme ça. Mais vous savez, le vin est à la limite d'être quelque chose qui n'est pas buvable. À la limite de quelque chose qui n'est pas buvable. Vous prenez les mauvais outils. Vous en mettez pas assez dans la bouteille, vous en mettez pas assez dans le fût pour que le vin fermente comme il faut. Savez-vous qu'est-ce que ça fait? Ça devient du vin aigre, du vinaigre. J'ai du vinaigre ici. Vous savez, la différence entre les deux, c'est pas grand-chose. Une simple bactérie fait en sorte que le produit va devenir quelque chose de qualité, quelque chose de valeur, quelque chose qui est bon, comparativement à l'autre qui a été influencé par des circonstances à l'extérieur, qui est devenu du vinaigre. Hein, qui boit un repas un bon verre de vinaigre? Hein, c'est ridicule, il n'y a pas personne qui va boire ça. Il n'y a pas personne qui est intéressé. L'alcool est transformé en acide. Et bon, le vinaigre, on peut faire des salades, on peut faire des affaires de même. Il n'y a pas personne qui va prendre une coupe de vinaigre. C'est du vin qui est manqué. Mais les circonstances de nos vies, on doit les voir semblables à ça. Comment est-ce qu'on les vit? Esther, qui était une orpheline, qui était adoptée, qui vivait certainement comme une orpheline, c'est-à-dire qu'elle était certainement pas dans un milieu très bien nanti. Et malgré ça, elle est devenue une femme de qualité. Plutôt qu'une femme qui était plus capable des circonstances, puis qui a dit, moi, c'est assez. Moi, c'est assez. Regarde là qu'est-ce qui se passe avec moi. Je suis déporté. J'ai perdu mes parents. Je fais ce que je veux maintenant. On voit qu'Esther, elle est demeurée fidèle. Et je ne veux pas lancer de roche du tout pour le vinaigre, parce qu'on a une dame dans les Écritures aussi qui a dit, moi, je suis devenu du vinaigre. Souvenez-vous, c'est qui? Naomi. Naomi est partie de Bethléem parce qu'il y avait une famine. Elle est partie avec son mari, ses deux fils, se sont mariés ses deux fils, et elle perd son mari, elle perd ses deux fils. Il y a une de ses belles-filles, ses brues, qui part, puis il en reste une, Ruth. Naomi revient avec Ruth à Bethléem, puis les gens disent, « Ah, mais est-ce que c'est Naomi? » Naomi a dit, « Appelez-moi plus Naomi, appelez-moi Mara, parce que Dieu s'est acharné sur moi. On dirait que Dieu me veut du mal. » Puis elle est devenue amère. Et je veux pas lancer de roche du tout à Naomi parce que on n'était pas dans ses souliers. Mais ce qu'on doit dire à Naomi, c'est que l'histoire n'était pas terminée. C'est que Dieu allait la transformer. Que Dieu y avait un plan. L'échiquier n'était pas terminé. il y avait quelque chose d'autre qui allait s'en venir. Et on connaît l'histoire de Ruth, de Naomi. Finalement, un homme a usé de son droit de rachat sur Ruth, qui a pris soin finalement aussi de Naomi. Dieu n'avait pas terminé. Mais entre les deux, Naomi était devenue du vinaigre, était devenue amère. Si Jésus a été capable de transformer l'eau en vin, c'est vrai aussi pour une période dans nos vies où ce qu'on pourrait être devenu amer, Dieu transforme mon cœur, transforme mes pensées. Aide-moi, j'ai de la difficulté avec ce qui se passe autour de moi. J'ai envie de devenir amer, mais il faut garder la foi que Dieu est au contrôle de ces circonstances-là, que Dieu va intervenir. Il faut demeurer fidèle comme ce qu'Esther elle l'était pour finalement devenir aussi une femme d'influence. Et Dieu est capable de transformer le vinaigre en vin aussi. C'est ce que Dieu veut faire avec nos vies. Mais pour nous, quand on est confronté devant des situations qui peuvent être difficiles, on doit se souvenir que Dieu est au contrôle et puis de se transformer en vin plutôt qu'en vinaigre. Parfois, les circonstances de nos vies peuvent affecter notre attitude envers Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Pourquoi est-ce que ces choses m'arrivent à moi? Pourquoi est-ce que ces choses ne changent pas plus vite? Quand est-ce que tout cela va se terminer? Il peut y avoir plein de questions qu'on peut se poser. Et ça, c'est vrai pour les hommes comme pour les femmes. Hein? C'est vrai pour tout le monde, finalement, aussi. Mais l'exemple de Naomi devrait être un réconfort pour nous de voir que Dieu avait un plan qui suivait. Je veux juste vous citer, avant qu'on continue dans le livre d'Esther, Jacques 1-2. « Mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » De voir les épreuves de nos vies comme un sujet de joie complète, c'est ce que Dieu nous dit. Hébreux 12:15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Veillez à ce qu'on ne soit pas infecté par l'amertume, parce que l'amertume, quand elle est commencée, ça produit des rejetons. Savez-vous qu'est-ce que ça fait? Plusieurs en sont infectés. Si je prends une goutte de vinaigre, puis je le mets dans mon vin, dans l'espace de quelques jours, mon vin va être devenu du vinaigre. Il ne sera plus du vin. Le vinaigre, c'est ce qu'il fait. Les Écritures nous encouragent à veiller sur nos vies, que les épreuves ne deviennent pas une source d'amertume, mais une source de patience avec le temps aussi, où est-ce qu'on va suivre Dieu. Esther est devenue une femme d'influence parce qu'elle est demeurée fidèle à Dieu. Elle a gardé sa foi en Dieu. Je fais revenir dans Esther 2, le verset 2. Avant qu'on aille plus loin dans l'histoire, je veux prendre l'exemple d'Esther. On n'a pas beaucoup de détails. Je vais lire le verset 2 puis je vais vous expliquer après. « Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. » Deux critères, belle et vierge, qu'elles soient pures. Il y a un homme qui a écrit, qui a pris le livre d'Esther en 1689, Jean Racine, il a pris le livre d'Esther, puis il a fait une pièce de théâtre avec, presque intégralement sur le livre. Et j'ai apporté une citation de cet homme-là sur sa perspective du livre d'Esther et sur le personnage d'Esther. Ce texte rejoint les aspirations religieuses. Tout respire ici Dieu, la paix, la vérité. Ce texte permet en effet d'illustrer le concept de la providence selon lequel Dieu gouvernerait au destin des siens et il illustre également une double fidélité, celle des Juifs envers Dieu et celle de Dieu envers son peuple élu. Par ailleurs, Esther est un modèle de pureté, de perfection féminine, de piété et de dévouement à son peuple. Perfection féminine, je ne sais pas, là, du moins en apparence, mais un modèle de pureté. C'est comme ça que j'imagine Esther. Si on n'a pas beaucoup de détails en ce qui concerne Esther sur sa pureté, on sait qu'elle a été choisie parce qu'elle remplissait les deux critères. Si Esther avait dit « Maintenant, moi, à cause de l'oppression, à cause de toutes ces choses-là, je suis tannée, puis je donne à mes yeux tout ce qu'ils désirent », peut-être qu'elle n'aurait pas été choisie parce qu'elle aurait été dans une autre situation, qu'elle n'aurait pas pu être la reine de Perse finalement. Les Écritures nous enseignent en ce qui concerne la pureté. Juste ouvrir une parenthèse sur cette vérité-là importante que les Écritures nous enseignent. La pureté, pas seulement la pureté sexuelle parce qu'on parle qu'elle était vierge, mais la pureté de notre être. La pureté où ce que Esther est devenue une femme d'influence parce qu'elle a su se garder pure dans un milieu impur. Imaginez les mœurs qui pouvaient exister en Perse. C'était comme une espèce de combinaison, là. Imaginez les mœurs qui pouvaient exister en Perse. C'était pas les valeurs religieuses que Esther lui était enseignée. Elle vivait dans un monde hostile, dans un monde où il y avait des idoles, et puis Esther aurait pu faire ce qu'elle désirait finalement, mais elle a choisi de suivre les enseignements qui lui ont été donnés. Elle est demeurée vierge, certainement que c'était une jeune femme encore, mais elle est demeurée fidèle à Dieu. Ça me fait penser un peu à Noé. Hein? Noé, quand il a été choisi pour aller justement, pour être sauvé du déluge, ça dit que, je le citais tantôt, les hommes se mariaient, se mangeaient et buvaient, et tous les gens se portaient tous les jours leur cœur uniquement vers le mal. Puis Noé était un homme qui avait décidé de rester pur dans un milieu impur. Lot, on pourrait citer Lot. Dieu a accepté que Lot, avec sa femme, puisse sortir de Sodome et Gomorre. Parce que Lot vivait dans un milieu impur et il est demeuré pur. Et c'est pour ça que Dieu l'a sorti. C'est pour ça que Dieu l'a utilisé aussi dans la suite des temps. Attendre, c'est un synonyme de pureté. C'est ce qui permet de ne pas compromettre ce que Dieu me garde dans le futur. Ne pas compromettre ce que Dieu me garde dans le futur. Des fois, on est tanné d'attendre, puis à cause de ça, on va plus vite que Dieu, puis on échappe ce que Dieu nous réserve dans le futur, à cause de notre impatience, à cause de notre manque de foi. Pourquoi attendre? Pourquoi demeurer fidèle? De toute façon, on dirait que Dieu m'a oublié. Peut-être qu'elle aurait pu dire ça. C'est pas ce qu'elle a dit. Esther a été choisie à cause de sa beauté et aussi à cause de sa pureté. Je pourrais vous citer deux textes. 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, la convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On est dans un contexte semblable. On est dans un monde qui prône l'impureté. Hein? Et aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un, par exemple, si vous êtes célibataire, que vous attendez pour le mariage, pour la sexualité, vous êtes vraiment quelqu'un de bizarre. Ça, c'est ce que la société enseigne. Mais pourtant, c'est ce que Dieu s'attend de nos vies. C'est ce que Dieu veut. Et là, on parle de la pureté sexuelle, mais la pureté face au péché, de se dissocier de ce que le monde va enseigner, l'amour du monde. On ne peut pas aimer le monde, les choses qui sont dans le monde, la philosophie du monde, puis dire « Ah, oh, moi j'aime Dieu aussi ». On se doit que de vivre pur dans un monde qui est impur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce que Dieu veut pour votre rôle, mesdames, est quelque chose qui est parfait, qui est bon, qui est agréable. Mais pour ça, on se doit que de ne pas se conformer au monde. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu me dit sur ma relation de couple? Qu'est-ce que Dieu me dit en tant que femme dans l'Église? C'est pas juste dans le couple, hein, le rôle d'une femme. C'est aussi dans l'Église, c'est aussi dans la société, c'est aussi sur vos proches. Et la pureté est quelque chose qui est de plus en plus difficile, autant pour les hommes que pour les femmes. La pureté de nos pensées, la pureté de nos paroles, la pureté de notre corps. Les Écritures enseignent ces vérités-là d'une façon récurrente, d'une façon régulière. La pureté de nos pensées, Jésus avait enseigné celui qui convoite la femme de son prochain dans ses pensées, il a déjà consommé le péché. Dans nos pensées, on a besoin que de pratiquer la pureté. Philippiens 4,8 dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit quoi? L'objet de vos pensées. C'est comme ça qu'on lutte aussi contre l'impureté. Et j'imagine qu'Esther est une femme qui devait entretenir une pureté dans ses pensées. Et on va voir par la suite des détails qui vont nous confirmer le reste. Mais la pureté même dans nos paroles, c'est une vérité tellement importante à travers les proverbes qu'on en voit. Jacques qui dit, celui qui tient sa langue en bride est un homme parfait, accompli. Ici, on tient notre langue en bride, c'est beaucoup plus facile pour nous que de moins pécher. Celui qui parle beaucoup pêche beaucoup aussi. La pureté dans notre corps, je fais juste citer un dernier texte. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La pureté est quelque chose de plus en plus difficile. La pureté est quelque chose qui affecte de plus en plus les rôles entre l'homme et la femme. La pureté des pensées, la pureté des paroles, la pureté du corps aussi. Je veux vous encourager justement à persévérer dans la pureté. Si c'est pas facile, mais persévérer. Puis, Esther, je vais terminer avec ça. Je vous invite à tourner toujours au chapitre 2. On va aller lire le verset 9. La jeune fille lui plut. On est avec Aigée dans la résidence des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui offrir de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Il donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Immédiatement, Esther arrive avec Aigée qui est l'eunuque, et puis toutes les femmes, et Aigée est le responsable de ces femmes-là qui s'en vient. Immédiatement, Esther trouve grâce devant Aigée. Et Aigée la voit, puis dit, je vais te donner le meilleur appartement qui existe ici. Je vais mettre des servantes aussi avec toi qui vont prendre soin de toi. Est-ce que c'est le hasard, ces choses-là? Tantôt, je parlais que l'échiquier, Dieu le place. Dieu, la main de Dieu, si le nom de Dieu ne revient pas dans le livre d'Esther, on voit clairement comment est-ce que Dieu est en train de dessiner les choses. Et si Esther est devenue une femme d'influence, c'est à cause de son aussi, à cause de son caractère. Esther n'était pas seulement une femme jolie, une femme qui était vierge, qui remplissait ces critères-là, mais on peut voir qu'elle avait un caractère qui plaisait à Dieu et aussi aux hommes. Immédiatement, l'eunuque l'a aimé. Alors, les femmes étaient placées dans une maison, la maison du roi, et là, ils devaient se préparer pendant 12 mois, 6 mois d'une façon, 6 mois d'une autre façon. Après ça, ils allaient vers le roi, et là, après ça, elles changeaient de maison, puis devenaient finalement une concubine du roi. C'est un modèle vraiment païen, là. Mais c'est comme ça que ça fonctionnait à ce temps-là. Dieu allait guider Esther aussi à travers ce monde-là qui était hostile. Je vous invite à tourner au verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Aigée, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et lui fit des présents avec une libéralité royale. On va arrêter là pour l'instant, sans nécessairement développer beaucoup plus le point parce que le temps a passé. Mais je voulais juste faire ressortir, puis on utilisera la suite de ce texte-là la prochaine fois. Esther est devenue une femme d'influence à cause de son caractère. Une femme qui aimait écouter son oncle, qui aimait écouter les conseils de son oncle. Son oncle avait dit, dévoile pas tout de suite ta nationalité, dis pas tout de suite qui tu es. Et elle est demeurée fidèle, elle est demeurée loyale, attentive aux conseils de son oncle. Le texte dit, Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. La grâce est... je vais juste vous citer Proverbe 31-30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Si la beauté est trompeuse, mais la grâce, le caractère d'Esther était certainement manifeste pour les gens qui la voyaient. Et évidemment, Dieu était dans le portrait. Évidemment, Dieu la faisait trouver grâce aussi. Mais Dieu a trouvé grâce Esther aux yeux de tous ceux qui la voyaient, certainement parce qu'elle était une femme qui aimait Dieu. Une femme qui respectait, une femme qui était, comme je disais, qui était loyale. On va développer un peu plus son caractère la prochaine fois. Mais Esther est devenue une femme d'influence à cause de sa fidélité à Dieu. Malgré les circonstances de sa vie, Esther est devenue un bon vin, une femme de qualité plutôt qu'un vinaigre. avec les Esther est devenue une femme d'influence dans le futur parce que elle était un exemple de pureté. Certainement qu'on pouvait voir qu'elle était une femme qui a choisi la pureté plutôt que de donner tout ce que son cœur désirait. Et Esther est devenue une femme d'influence aussi à cause de son caractère, où est-ce qu'on aura plus d'éléments la prochaine fois sur qu'est-ce qu'elle faisait. Qu'est-ce que les Écritures nous disent pour notre caractère aussi. Je vais terminer avec un mot de prière. Que Dieu nous encourage dans les rôles qu'il nous a donnés, qui sont pas toujours évidents, à faire la part entre qu'est-ce que Dieu s'attend de moi? Qu'est-ce que le monde m'enseigne de faire? Comment est-ce que je peux avoir le discernement pour voir que je dois agir comme ça et pas comme ça? Dieu veut que vous soyez des femmes d'influence. On a besoin de vous. On a besoin de votre rôle qui soit pratiqué au sein de notre assemblée, dans votre couple aussi, auprès de vos enfants, auprès de vos proches. Ça va être vrai pour les hommes aussi. On continuera la prochaine fois avec les hommes, hommes de courage, avec l'histoire de Néhémie. Mais chacun de nous, Dieu nous a donné un rôle, puis il veut qu'on le pratique. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Merci Seigneur, parce que t'es un grand Dieu qui a pensé à nous, qui nous a pas laissés sans instruction, sans intelligence. Tu nous as donné ta parole et tu nous as montré, Seigneur, qu'est-ce qu'on a à comprendre pour devenir de mieux en mieux, Seigneur, des gens qui te ressemblent. Seigneur, merci pour l'histoire d'Esther, qui est une histoire où est-ce qu'on peut voir cette jeune fille qui était orpheline, puis que tu l'as fait devenir, Seigneur, la reine de Perse. On veut, Seigneur, utiliser ces exemples dans les Écritures, qu'on soit homme ou femme, pour voir les bons coups, pour qu'on puisse mettre en pratique aussi ce que tu veux pour nos vies. C'est en nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on te prie ces choses. Amen.